Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. La Covid-19 a bouleversé notre monde et nos modes de vie depuis plus d'un an maintenant. Le monde doit faire preuve de créativité pour faire face à cette pandémie. La diplomatie et les relations internationales ont dû elles aussi s'adapter. Jusqu'alors, les réunions en présentiel entre diplomates et experts du monde entier étaient le moyen privilégié pour échanger. Et le Palais des Nations voyait chaque semaine des milliers de personnes déambuler dans les couloirs et les salles de réunion. Aujourd'hui, les restrictions sanitaires imposent que tous ces échanges se fassent sur des plateformes numériques par écran interposé. Dernier exemple en date, le Conseil des droits de l'homme qui s'est déroulé entièrement en ligne. Quelles sont les conséquences de la pandémie pour les relations internationales et quel sera le visage de la diplomatie de demain ? Nous en discutons avec Rabi El-Haddad, directeur de la Division pour la diplomatie multilatérale à UNITAR, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. C'est notre invité de la semaine. Rabi El-Haddad, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas UNITAR, pourriez-vous présenter en quelques mots votre institut ?
L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, comme vous le savez, il est basé à Genève. Nous avons un bureau à New York et à Hiroshima. L'Institut, c'est le cœur de formation du système des Nations Unies. Tout ce qu'on fait, c'est renforcer les capacités des États membres afin de leur permettre de surmonter et d'être à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain. Donc, notre clientèle principale, c'est les États membres. L'Institut a été restructuré sur la base des SDGs, des Objectifs de développement du millénaire. Et tout ce qu'on fait, c'est sur la base des SDGs actuellement, en collaboration et pour le profit des États membres.
Alors, votre institut va proposer le 8 avril prochain un webinaire avec pour thème « L'avenir du droit international et de la diplomatie. Où allons-nous après la Covid ?» Avant d'en venir à la pré-pandémie, pourriez-vous expliquer comment la Covid-19 a changé le monde de la diplomatie et des négociations ?
Le Covid a eu un impact terrible sur le monde de la diplomatie parce que le cœur de la diplomatie, c'est quoi ? C'est les relations humaines, c'est les négociations face à face entre diplomates qui essayent chacun ou chacune de défendre les intérêts de leur pays. Et ça, ça s'est fait pendant des décennies et des centenaires d'une façon présentielle. Maintenant, le Covid a eu l'impact terrible sur la question de confiance. Parce que dans la diplomatie, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de surmonter la question de confiance et de construire sur cette confiance afin de débloquer des négociations qui sont complexes. Donc, comment est-ce que la question de la confiance a été impactée ? En premier lieu, la confiance entre États. Le Covid a poussé chaque État à protéger l'intérêt national à n'importe quel coût, parce que donc, tous les États étaient dans un état de panique. Et on l'a vu quand il s'agit donc, de se procurer des outils médicaux pour combattre le Covid. Ça, c'est donc la question de la confiance entre États. La question de la confiance entre les États et leurs citoyens. Et ça a eu un impact aussi au niveau international et aussi dans le contexte onusien. Beaucoup de pays ont souffert de cette question de confiance entre États et citoyens parce qu'on a vu plein de démonstrations, de manifestations des gens, et jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas eu confiance dans le discours scientifique ou bien la façon dont les États ont géré cette pandémie. Le troisième niveau, qui est d'une importance capitale pour les diplomates et les négociateurs, c'est la confiance entre nous. Ce manque de confiance entre personnes à cause du Covid a engendré au niveau international aussi un manque de confiance dans le fonctionnement des organisations internationales. Donc on le sent aujourd'hui.
Alors vous l'avez dit, dans un premier temps, lors de l'apparition de la Covid-19 et son étendue dans le monde entier, il y a eu plutôt une phase de repli des États sur eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui on constate un effet inverse qui serait plutôt de face au côté universel de la pandémie, un renforcement du multilatéralisme ?
Tout à fait, pour deux raisons principales. En premier lieu, il y a eu donc l'assurance, plus ou moins, ou bien l'accès à l'information pour la population et les gouvernements en ce qui concerne la gestion de cette pandémie. Et ça rassure les gens, l'accès à l'information. La deuxième chose au niveau international, c'est le changement dans certains pays majeurs, donc des pays puissants dans le système des Nations Unies. Il y a eu des élections qui ont changé la donne. Et je parle ici, par exemple, de la présidence américaine. Avec la présidence du président Joe Biden. C'est quelqu'un qui veut renforcer donc, le multilatéralisme. Et ça, on le sent déjà au niveau international. Il y a un retour vers un multilatéralisme, non pas seulement au niveau de l'ONU, mais au niveau de toutes les autres organisations internationales qui souffraient plus ou moins à un certain moment d'un manque d'énergie vitale par rapport à leur mandat. Donc, Là, l'arrivée de cette présidence américaine, sans doute, a eu un impact au niveau international et je pense au niveau national, c'est l'accès à l'information qui a changé la donne.
Vous l'avez mentionné au début de cette interview, vous soutenez les États dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Est-ce que la pandémie ne risque pas de mettre à mal tous ces efforts, justement ?
Alexandre, c'est une excellente question. Bien sûr, parce que vous imaginez, vous avez certains organismes qui estiment le coût de cette pandémie aux États membres, bien sûr, à 30 000 milliards de dollars. Donc la question principale, nous, aux Nations Unies, on avait estimé l'accomplissement donc, des objectifs de développement du millénaire à entre 12 et 15 000 milliards de dollars. Et donc, cette pandémie a coûté le double de ce qui aurait pu coûter donc, l'accomplissement des objectifs de développement du millénaire en 2030. Donc, la question principale, c'est qui va payer pour cela et comment, et les États membres donc, qui soufflaient déjà, comment est-ce qu'ils vont pouvoir débloquer du financement pour accomplir les objectifs du développement du millénaire en 2030? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, quel est le rôle du secteur privé dans tout cela? Est-ce que le secteur privé va pouvoir être compétitif et participer à ces objectifs, donc à l'accomplissement de ces objectifs? Donc voilà, c'est une énorme question et je doute fort que les instances internationales ont eu le temps de vraiment obtenir les informations qui leur permettent de répondre à cette question.
Alors pour reprendre l'expression très à la mode en ce moment, y aura-t-il un avant et un après Covid dans les relations internationales ou est-ce que finalement ces relations vont revenir comme avant la pandémie ?
Il y aura bien sûr un avant et un après, ça c'est indéniable. Ça a créé un traumatisme, j'utilise le mot traumatisme, donc le Covid, parce que même au sein même d'organisations internationales à but d'intégration régionale comme l'Union européenne, dont les institutions et les instances sont fortes et qui sont gouvernées par un état de droit. Là, même au sein même de l'Union européenne, nous avons constaté un certain dysfonctionnement par rapport au fonctionnement, par rapport à comment cette entité régionale et qui représente des états forts qui font partie de l'OCDE, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette pandémie. Donc, et d'autres pays ont fait la même chose, donc ce n'est pas qu'on vise à critiquer l'Union européenne. Toutefois, il y a un avant et un après, pour sûr, et je suis sûr que tous les États membres des Nations Unies vont tirer des leçons de cela, parce que la façon dont toute cette pandémie a été gérée au début et jusqu'à aujourd'hui, ça a été beaucoup plus du l'unilatéral, probablement parfois du bilatéral, et peu du multilatéral. Donc, il y aura un avant et un après, pour sûr.
Dernière question, le 9 mars dernier, vous avez organisé un événement à l'occasion de la Journée mondiale des négociations, au cours duquel vous avez décerné le prix du négociateur de l'année. Alors, en quelques mots, quelles sont les qualités indispensables pour être en 2021 un bon négociateur ?
Moi, je dirais gérer l'imprévu. L'imprévu, la gestion de l'imprévu, la gestion du chaos, la gestion personnelle du stress. Le négociateur, la personne qui négocie aujourd'hui, négocie non pas seulement pour défendre les intérêts de son pays, mais négocie dans un monde complexe, dans un monde qui est volatile, dans un monde qui est ambigu, dans un monde qui est dépourvu de toutes sortes d'informations fiables, où toutes les frontières de l'information sont qui changent constamment, donc qui ne sont pas fixes. Donc, moi, je dirais l'adaptation, l'accès à l'information scientifique, donc la connaissance de cette information. Donc, une personne qui négocie ne peut plus se confiner au langage de négociation. Cette personne doit être au courant de tous les défis globaux. Et aussi, donc, la capacité à tisser des liens avec autrui à distance. Parce que la pandémie nous a montré que le défi majeur, c'était de pouvoir créer cette confiance et construire cette confiance à distance. C'était ça le plus grand défi des négociateurs pendant la pandémie. Voilà.
Rabih El Haddad, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la division pour la diplomatie multilatérale à UNITAR, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguer, Anna Sophia Awert à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.